Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, les couleurs de nos souvenirs, de Michel Pastoureau. Que reste-t-il des couleurs de notre enfance? Comment la couleur s'inscrit-elle dans le champ de la mémoire? Le noir et le blanc sont des couleurs à part entière. Il n'existe que 6 couleurs de base. Le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Viennent ensuite 5 couleurs de second rang que l'on appelle à tort des demi-couleurs. Le gris, le brun, le rose, le violet et l'orangé. Toutes les autres colorations ne sont que des nuances ou des nuances de nuances. Michel Pastoureau est l'historien des couleurs, des goûts et des couleurs. On peut discuter à l'infini et tout le monde reconnaît la force de la subjectivité dans ces domaines. Mais saviez-vous que les couleurs ont une histoire culturelle, politique et psychique ? Imaginez-vous qu'il existe des couleurs qui nous font chaud au cœur et d'autres qui nous font peur, et ce, par-delà les latitudes et les origines religieuses. Les couleurs ne sont pas immuables. Elles ont une histoire mouvementée qui remonte à la nuit des temps et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire. Ce n'est pas par hasard si nous voyons rouge, rayons jaune, devenons blanc comme un linge, vert de peur ou bleu de colère. Le bleu, couleur méprisée dans l'Antiquité, est devenue la couleur préférée du monde occidental. Au Moyen-Âge, le bleu est associé à la lumière divine. Le ciel est bleu et le bleu est une couleur royale. Avec la réforme protestante, on parle de couleurs honnêtes, sobres, comme le noir, le gris, le blanc, le bleu, en opposition à des couleurs déshonnêtes, le rouge, le jaune, le vert. Rembrandt, de sa présence protestante aux Pays-Bas, s'oppose en quelque sorte à Rubens, peintre catholique qui vivait à Anvers. La révolution chimique du bleu avec l'indigo, fruit de l'indicotier, prisé aux États-Unis, enchaîne la chute du pastel, car bien moins cher. Le bleu est dans la première révolution du romantisme, à la fin du XVIIIe siècle. Le bleu est aussi dans les drapeaux, l'art militaire, les professions, et l'on doit à un fils de tailleur juif de New York, Lévi-Strauss, installé à San Francisco, d'en faire un pantalon de loisir qui deviendra le jean. Le pantalon rouge garance des soldats français de la Première Guerre mondiale est tout de suite remplacé par un pantalon bleu, moins voyant sur le front. Le bleu est plus sobre, docile et neutre. C'est une couleur chaude. Le rouge, lui, est ambivalent. Symbole tour à tour positif de la puissance, de l'amour, de la beauté ou symbole négatif de l'enfer, de la violence, de la luxure. Contrairement à ce timoré de bleu, le rouge, lui, est une couleur orgueilleuse, pétrie d'ambition et assoiffée de pouvoir. Une couleur qui veut se faire voir et qui est bien décidée à l'imposer à toutes les autres. Le rouge fait partie de la triade primitive. Noir, lié au sale. Blanc, lié au propre. Et rouge, teinte colorée. Les teinturiers produisaient plus facilement cette couleur rouge avec ses différentes nuances, mais se trouvent marginalisés socialement car considérés comme des êtres mystérieux, et cela dès le Moyen-Âge. Le rouge est associé à la guerre, à la révolution, au danger. Le rouge masculin et viril d'avant la fin du XVIIIe siècle se transforme petit à petit en vision féminine, prenant la place du bleu. Le noir, lui, est la couleur de la nuit et symbole de mort. Le noir structure notre vision du monde. Au cœur du Moyen-Âge, le noir est en effet la couleur de l'enfer, où règnent les ténèbres, c'est la couleur du diable. Les animaux sont noirs comme le corbeau, ils sont extrêmement dévalorisés. Mais il y a quand même le bon noir, à la même époque, qui est la couleur de l'humilité, de la tempérance, de la dignité. Les moines bénédictins de Cluny portent une robe noire, un noir humble, contrairement aux moines cisterciens de Cîteaux, qui vénèrent à l'image de Bernard de Clairvaux, le blanc. Couleur de la mort et de l'enfer, le noir n'a donc pas toujours été une couleur négative. Au fil de son histoire, il a aussi été associé à la fertilité, à la tempérance, à la dignité. Et depuis quelques décennies, il incarne surtout l'élégance de la modernité. le noir luxueux que l'on retrouve chez le duc de Bourgogne à la fin du XIVe siècle, puis ensuite à la cour d'Espagne avec Charles Quint et Philippe II. Les architectes, mais aussi les stylistes et couturiers, souvent les hommes, sont habillés en noir. Il y a l'idée qu'avec le noir, on ne fait pas d'écart, on ne fait pas de faute de goût. Le noir se marie avec à peu près tout et il est relativement neutre dans nos sociétés contemporaines. Tantôt couleur du diable, tantôt manifestation visible de l'esprit puritain, le noir nous apparaît ainsi dans ses ambivalences et son histoire. Une histoire faite de ruptures et de contradictions, une histoire de notre imaginaire qui démontre, pour reprendre Michel Pastoureau, qu'une couleur ne vient jamais seule. Les peintres Velázquez, Manet, Renoir et surtout Soulages font du noir une couleur référente. Le deuxième mouvement romantique en 1760 est porté par le noir, le soleil noir de Nerval. En Europe, une personne sur six a le vert pour couleur préférée, mais il s'en trouve presque autant pour le détester. Le vert est une couleur ambivalente, sinon ambiguë, symbole de vie, de sève, de chance et d'espérance d'un côté, il est de l'autre associé au poison, au malheur, au diable et à ses créatures. Le prophète Mohammed avait un goût pour le vert, ce qui explique la couleur verte de l'islam. Le vert a été popularisé par l'épopée stéphanoise en football dans les années 1970. Le jaune serait donc la couleur la moins appréciée, alors que l'ensemble des autres couleurs de base ont tout un double symbolisme. Le jaune est la seule à n'avoir gardé que l'aspect négatif, sauf quand on est maillot jaune, en cyclisme, sur le Tour de France ou ailleurs. Michel Pastoureau est né le 17 juin 1947 à Paris, dans le 14e arrondissement. Il est le fils d'Henri Pastoureau, écrivain et peintre amateur, proche des surréalistes d'André Breton. Michel Pastoureau est admis à l'École nationale des chartes à l'issue du concours d'entrée de 1968. Il y obtient le diplôme d'archiviste paléographe en 1972, après avoir soutenu une thèse d'établissement intitulée « Le bestiaire héraldique au Moyen-Âge ». Le sujet est à l'époque considéré comme peu porteur. L'héraldique avait la réputation d'être une discipline archaïque et l'étude des bestiaires n'était pas considérée comme un sujet historique. Michel Pastoureau est nommé conservateur des bibliothèques à la Bibliothèque nationale de France et affecté au cabinet des médailles en 1972. Il est nommé directeur d'études à la 4e section de l'École pratique des hautes études à compter du 10 octobre 1983. Il est également membre de l'Académie internationale d'héraldique, président d'honneur de la Société française d'héraldique et de sylilographie et enseigne régulièrement à l'École du Louvre. Il a été conseiller historique pour deux films, Perceval le Gallois d'Éric Rohmer et Le roman de la rose de Jean-Jacques Annaud. Michel Pastoureau est spécialiste de la symbolique et de l'histoire culturelle des couleurs, des emblèmes, de l'héraldique et de l'histoire culturelle des animaux. Comme pour tout objet à fort pouvoir symbolique, les origines du djinn restent entourées d'un certain mystère. À cela, différentes raisons, dont la principale tient sans doute à l'incendie qui, en 1906, lors du grand tremblement de terre de San Francisco, a détruit les archives de la firme Lévi-Strauss, créatrice du célèbre pantalon un demi-siècle plus tôt. C'est en effet au printemps 1853 que le jeune Lévi-Strauss, curieusement, son prénom demeure incertain, petit colporteur juif de New York, originaire de Bavière et âgé de 24 ans, arrive à San Francisco, où depuis 1849, la fièvre de l'or provoque un accroissement de population considérable. Il apporte avec lui une grande quantité de toiles, de tentes et des bâches pour chariots, dans l'espoir de gagner convenablement sa vie. Mais les ventes se révèlent médiocres. Un pionnier lui explique que dans cette partie de la Californie, on n'a pas tant besoin de toiles et de tentes que de pantalons solides et fonctionnels. Le jeune Lévi-Strauss a alors l'idée de faire tailler des pantalons dans sa toile. Le succès est immédiat et le petit colporteur de New York devient confectionneur de prêt-à-porter, industriel du textile. Il fonde avec son beau-frère une société qui ne cesse de croître au fil des années. Bien que celle-ci diversifie sa production, ce sont les salopettes ou les pantalons qui se vendent le mieux. Ceux-ci ne sont pas encore bleus, mais de différents tons s'inscrivent entre le blanc cassé et le brun foncé. Cependant, si la toile de tente est très solide, elle constitue un tissu vraiment lourd, rêche et difficile à travailler. Entre 1860 et 1865, Lévi-Strauss a donc l'idée de la remplacer progressivement par du denim, tissu importé d'Europe et teint à l'indigo, uniquement à l'indigo. Le jean bleu est né. L'origine de ce terme anglais, denim, est controversée. Il est possible qu'il s'agisse au départ d'une contraction de l'expression française « serge de Nîmes », étoffe faite de laine et de déchets de soie fabriqués dans la région de Nîmes depuis au moins le XVIIe siècle. Mais ce terme désigne également, à partir de la fin du siècle suivant, un tissu associant le lin et le coton, produit dans tout le Bas-Languedoc et exporté vers l'Angleterre. En outre, un beau drap de laine, produit sur les bords de la Méditerranée entre la Provence et le Roussillon, porte le nom occitan de Nîmes. Il peut être, lui aussi, à l'origine du mot de Nîmes. Tout cela reste incertain, et le chauvinisme régional des auteurs ayant écrit sur ces questions ne facilite pas la tâche des historiens du vêtement. Quoi qu'il en soit, au début du XIXe siècle, en Angleterre et aux États-Unis, le denim est un tissu de coton très solide, teint à l'indigo. Il sert principalement à fabriquer les vêtements des mineurs, des ouvriers et des esclaves noirs. À l'horizon des années 1860, il remplace peu à peu le jean, étoffe dont Lévi-Strauss se servait jusque-là pour tailler ses pantalons et ses salopettes. Ce mot « jean » correspond à la transcription phonétique du terme italo-anglais « genoese », qui signifie tout simplement « de gêne ». La toile de tente et de bâche qu'utilisait le jeune Lévi-Strauss appartenait en effet à une famille de tissus autrefois originaire de Gênes et de sa région, fait d'abord d'un mélange de laine et de lin, plus tard de laine et de coteau. Il permettait de fabriquer depuis le XVIe siècle des voiles de navire, des pantalons de marin, des toiles de tente et des bâches en toutes sortes. À San Francisco, le pantalon Lévi-Strauss, par une sorte de métonymie, avait pris dès les années 1853-1855 le nom de son matériau, jean. Lorsqu'une dizaine d'années plus tard, ce matériau changea, le nom resta. Les jeans étaient désormais taillés dans du denim et non plus dans de la toile de Gênes. Mais leur nom ne fut pas abandonné pour autant. En 1872, Lévi-Strauss s'associa avec un tailleur de Reno, Jacob Davis, qui 2 ans plus tôt avait imaginé de confectionner des pantalons pour bûcherons ayant sur l'arrière des poches fixées au moyen de rivets. Les jeans Lévi-Strauss eurent donc désormais des rivets. Bien que l'expression « blue jean » ne fît son apparition commerciale qu'en 1920, les jeans Lévi-Strauss, dès les années 1870, étaient tous de couleur bleue, car le coton de Nîmes était toujours teint à l'indigo. Mais il était trop épais pour absorber solidement toute la matière colorante, si bien qu'il ne pouvait être garanti grand teint. Or, c'est justement cette instabilité de la teinture qui fit son succès. La couleur apparaissait comme une matière vivante, évoluant en même temps que le porteur du pantalon ou de la salopette. Quelques décennies plus tard, lorsque les progrès de la chimie des colorants permirent de teindre à l'indigo n'importe quelle étoffe de manière solide et uniforme, les firmes productrices de jeans durent blanchir ou décolorer artificiellement leurs pantalons bleus afin de retrouver la tonalité délavée des origines. À partir des années 1890, la patente juridico-commerciale qui protégeait les jeans de la firme Lévi-Strauss prit fin. Des marques concurrentes virent le jour qui proposèrent des pantalons taillés dans un tissu moins épais et vendus moins cher. La firme Lee, créée en 1908, eut l'idée de remplacer les boutons de braguette par une fermeture éclair en 1926. Mais c'est la firme Bluebell, devenue Wrangler en 1947, qui à partir de 1919 fit la plus forte concurrence au jean Lévi-Strauss. Par réaction, la puissante firme de San Francisco, dont le fondateur était mort milliardaire en 1902, créa le Levi's 501, taillé dans un coton denim, double et gardant fièrement et fidèlement les rivets et les boutons métalliques. En 1936, pour éviter toute confusion avec des marques concurrentes, une petite étiquette rouge portant le nom de la marque fut cousue le long de la poche arrière droite de tous les authentiques jeans Lévi-Strauss. C'était la première fois qu'un nom de marque s'affichait de manière aussi ostensible sur la partie extérieure d'un vêtement. Entre-temps, le jean avait cessé d'être seulement un vêtement de travail. C'était devenu aussi un vêtement de loisirs et de vacances, notamment pour la riche société de l'Est des États-Unis, venant passer ses vacances à l'Ouest et voulant y jouer les cow-boys et les pionniers. En 1935, la luxueuse revue Vogue accueillit sa première publicité pour ses jeans bon genre. En même temps, sur certains campus américains, le jean était adopté par les étudiants, notamment ceux de deuxième année, qui s'efforcèrent pendant un temps d'en interdire le port aux bizutes de première année. Le jean devenait un vêtement de jeunes et de citadins, plus tard de femmes. Quel est le plus grand exploit sportif de tous les temps? Les 6 records du monde d'athlétisme battus au galet en moins d'une heure par Jesse Owens à Ann Arbor le 25 mai 1935? Le saut en longueur inouï de 8,90 m de Bob Beamon aux Jeux Olympiques de Mexico le 18 octobre 1968? La double victoire des deux skieurs du Liechtenstein, Andreas et Annie Wenzel, le frère et la sœur, dans les Coupes du monde masculines et féminines de ski alpin en 1981? Pour ma part, j'ai une admiration immense pour les deux finales disputées par le champion de tennis australien Ken Rosewold au tournoi de Wimbledon, la première en 1954, la seconde en 1974. 20 ans d'écart, malheureusement, ce sont deux finales perdues. Curieusement, alors qu'ils sont rarement d'accord, les historiens du sport, les vrais, ceux qui ne séparent pas le sport de l'histoire politique, sociale ou culturelle et qui ne privilégient pas outrageusement les années récentes, paraissent ici s'accorder, même si beaucoup soulignent la difficulté qu'il y a à comparer des palmarès, des époques et des générations différentes. La majorité d'entre eux considèrent que le plus grand exploit sportif de tous les temps a été réalisé par Gino Bartali. Victoire dans le Tour de France 1938, victoire dans celui de 1948. Quand on sait ce qui s'est passé en Europe et dans le monde entre ces deux dates, ces deux succès prennent en effet une dimension exceptionnelle. J'ai toujours admiré Gino Bartali, 1914-2000. Enfant, je lui donnais ma préférence dans sa rivalité avec Fausto Coppi, de 5 ans son cadet. Adulte, j'ai compris que cette rivalité avait valeur de symbole. Chacun incarnait au lendemain de la guerre deux visages d'une Italie en train de se reconstruire. L'un catholique et traditionnel, Bartali, l'autre davantage en osmose avec une certaine modernité, Coppi. Plus récemment, peu après la mort de Bartali, des documents ont été publiés qui ont révélé son comportement exemplaire pendant la guerre. Bartali contribua à sauver des juifs et des résistants. C'était injuste. C'était aussi un champion propre, peut-être le dernier parmi les grands coureurs cyclistes. La longévité de sa carrière est remarquable. Commencée en 1935 chez les professionnels, elle ne se termina qu'en 1954. D'où un palmarès hors du commun qui aurait été plus fourni encore si la guerre n'avait pas interrompu les compétitions sportives pendant plus de 5 ans. Gino Bartali était aimé des journalistes. Jacques Godet, qui dirigea l'équipe pendant de longues années, lui vouait une sorte de culte. Et la presse se plaisait à rapporter ses propos, parfois grognons, parfois ironiques, toujours pertinents. L'un d'eux intéresse l'histoire des couleurs de manière inattendue. Lorsqu'il fut champion d'Italie sur route, pour la dernière fois en 1952 à l'âge de 38 ans, Bartali monta sur le podium, regarda hisser le drapeau italien et reçut un nouveau maillot tricolore, vert, blanc et rouge. Il fit alors observer aux journalistes présents que le vert du drapeau et de ce nouveau maillot était plus clair qu'autrefois. Quand il avait été champion d'Italie pour la première fois en 1935, le vert était foncé et même un peu grisé. En 1937 et 1940, pour ses deuxième et troisième victoires, le vert s'était éclairci et avait pris une teinte moyenne. Mais là, en 1952, il était franchement clair, presque lumineux. Cette remarque du grand champion italien n'a rien d'anecdotique. Elle peut s'appliquer à d'autres drapeaux européens et traduit des mutations générales de sensibilité dans le domaine des couleurs. On pourrait faire, par exemple, un constat semblable pour le bleu du drapeau français. Presque toujours foncé entre les deux guerres, et encore bleu marine lorsque j'étais enfant, dans les années 1950. Puis, un peu plus clair 2 décennies plus tard, et franchement bleu roi aujourd'hui. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.